Dans les cantiques que le Seigneur a inspirés à nos amis monettes, c'est que je réalise que ces paroles sont vraies. Et c'est toujours biblique, ça rejoint toujours ce que dit la parole de Dieu. Et c'est cela qui fait du bien. Alors, en chantant ces cantiques, vous apprenez encore quelque chose de la parole. Et j'étais si content de vous voir. Osez-vous lever et dire, c'est vrai que nous avons chanté. Hein? C'est encourageant. Continuez, mes amis. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Nous allons nous recueillir encore un instant devant le Seigneur. Du fond de nos cœurs, ô notre Dieu, nous voulons une fois encore te bénir pour ce que tu as été, même en ce jour de pluie, où nous avons pu revoir Cathy. Tu sais combien nous l'aimons, tu sais quel est son état, et comme nous aimerions qu'elle puisse te dire, si tu le veux, Seigneur, tu peux la guérir. Et nous voudrions que tu puisses lui dire, je le veux. Nous nous emparons de cette parole pour elle aussi. Et nous te remercions pour la joie que tu lui as donnée de revoir ce camp. Nous voulons maintenant te demander que, dans ces derniers moments de cette journée, tu parles encore à nos cœurs et que tu nous donnes des exemples d'hommes qui ont réalisé que tu étais le vivant qui se révèle pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, chers amis, ce matin, en nous penchant sur l'épître de Paul à Tite, nous avons vu la manifestation de la grâce de Dieu. La raison naturelle que Dieu avait donnée à chaque homme en le créant n'avait pas réussi à le conduire dans le chemin de la vérité. La révélation du Sinaï, de la loi de Dieu, n'avait point non plus évité au genre humain les pires égarements dans les idées et dans les mœurs. Dieu avait pourtant donné une raison à l'homme naturel. Il lui avait donné ensuite la loi. Et comme vous l'avez chanté, s'il n'y avait eu que la loi, on était tous condamnés. Alors il fallait une intervention divine pour arracher l'homme au désastre et le faire participer à la justice divine. Et cette intervention, elle s'est produite quand, par la venue de qui? Par la venue du Seigneur Jésus. Quand il a été prouvé, manifesté, que même en connaissant la loi de Dieu, l'homme ne faisait que la transgresser, était incapable de vivre à la gloire de Dieu, selon les pensées de Dieu qui lui avaient été révélées, alors il a fallu une intervention divine. Et je le souligne, cette intervention, eh bien, ça a été celle de la grâce. Dieu a manifesté à ce monde méchant et rebelle, qu'il l'aimait malgré tout, et que dans son amour, il lui donnait ce qui était de plus beau au ciel, de plus cher au ciel, qui son fils, bien-aimé, qui est venu vivre ici-bas. Dieu nous montrait sa faveur, sa bonté, sa miséricorde, tout étant personnifié dans son Fils incarné. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ce qui nous a occupé ce matin. La grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. Et elle nous a apporté quoi ? Le salut. Et nous avons souligné ce matin que ce n'était pas un petit salut, mais le si grand salut. Plusieurs des jeunes n'étaient pas là, mais nous le soulignons aussi pour eux. Et ce salut, c'était quoi? C'était la personne même de Jésus-Christ. Quand Siméon a pris l'enfant dans ses bras, il l'a regardé, et qu'est-ce qu'il a dit? Mes yeux ont vu ton quoi? Ton salut. Donc le salut, selon l'Écriture, c'est quelqu'un. Et si vous êtes sauvé, vous avez quelqu'un qui habite en vous. Voilà la grâce qui nous a été faite. La grâce de Dieu qui apporte le salut à tous les hommes, de sorte que tous les hommes peuvent être sauvés par la grâce. Et vous connaissez ce verset dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2e, il est dit, vous êtes sauvés par la grâce. Cette grâce qui est apparue. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire en croyant à cette grâce, en croyant que c'est vrai que Dieu nous pardonne. Est-ce que vous croyez que c'est vrai qu'il vous a pardonné? Et pourquoi est-ce qu'il a pu vous pardonner? Parce que Jésus avait payé, avait expié nos fautes. Alors, on est sauvé par la grâce, au moyen de la foi. Mais ensuite, cette grâce, nous apprenons que c'est elle qui nous fortifie. Dans le chapitre 2 de la deuxième épître à Timothée, il est dit « Fortifie-toi dans la grâce ». C'est la grâce qui est la source de notre force. Sans ça, nous ne pourrions pas aller de l'avant. La grâce nous est donnée pour être notre force. Et puis, ensuite, cette grâce, on a vu ce matin qu'elle nous enseigne. Dans le temps présent, elle nous enseigne. Quant au passé, la grâce nous a apporté le pardon de tous nos péchés. Et Dieu, il est dit qu'il ne s'en souvient plus. Il ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Voilà ce que la grâce apporte pour tout notre passé. Pour le présent, elle nous fortifie, elle nous enseigne, et puis, d'après l'épître de Pierre, c'est elle qui nous fait croître. On grandit par la grâce. Et comme nous le disions dans une prière, eh bien, dans le chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, il est dit que la grâce est suffisante. La grâce nous suffit. Ma grâce te suffit. Et puis, ce qu'elle nous apporte pour le futur, c'est la gloire. Après la grâce, nous aurons la gloire. Et hier soir, je vous avais demandé de considérer quelques hommes qui pouvaient illustrer ce qu'était un vieillard qui craignait le Seigneur. On en a citer quelques-uns, mais je voudrais ce soir vous demander de penser à quelques jeunes hommes, puisque la grâce doit aussi enseigner les jeunes. Et est-ce que vous connaissez dans l'Ancien Testament des exemples de jeunes qui ont bien tourné, malgré leur épreuve? Oui, ben, quelqu'un a dit Joseph, hein, pour commencer, puisque c'est dans la Genèse. Hein. Joseph. Quel âge est-ce qu'il avait quand son père lui a demandé d'aller visiter ses frères?
13.
Comment?
13.
Non. 17 ans. Il avait 17 ans. Vous avez cela dans le chapitre 37 de la Genèse. Alors, je vous demande de penser à Joseph, qui avait 17 ans quand il était avec son père et que son père lui demandait d'aller prendre des nouvelles de ses frères. Est-ce que ses frères aimaient beaucoup Joseph? Non, on ne l'aimait pas. Et puis, qu'est-ce qui lui arrivait à Joseph très souvent quand il était jeune, comme ça, à 17 ans? Il faisait des rêves. Hein? Il rêvait. Il avait des songes. Et puis, il rapportait ses songes. Et dans ses songes, ses frères voyaient que Joseph, au fond, pensait se mettre en avant et que un jour, ce serait lui qui serait le premier, alors qu'il était l'avant-dernier des fils de Jacob. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Joseph qui obéissait à son père, qui était un bon garçon quand même, mais qu'on accusait de rapporter les mauvais propos que ses frères avaient entre eux? Quand Joseph est allé pour voir ses frères, ils l'ont attendu et puis ils ont dit, bien, on va voir ce qui va arriver à ce songeur. Est-ce que seront ses songes? Et comme tu le dis, ils l'ont vendu. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire d'abord? Il voulait le tuer. Et puis, le frère aîné, qui s'appelait, comment? Reuven, est intervenu, puis a dit, il vaudrait mieux le mettre dans quoi? Dans une citerne. Mais une citerne qui était vide, hein? Et lui, Reuven, il se disait, après moi j'irai l'enlever de la citerne, comme ça, il retournera vers son père. Parce que c'était quand même l'aîné, et il se sentait une responsabilité vis-à-vis de Joseph. Alors, Joseph a finalement été sorti de la citerne, quand même. Pour quelle raison? Parce qu'on a vu dans le désert une caravane d'Ismaélites qui passait par là. Puis les frères se sont dit, on pourrait faire de l'argent en vendant Joseph comme esclave. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein, vous le savez, tout ça. Joseph a été vendu comme esclave aux Ismaélites. Et les Ismaélites sont allés où? En Égypte. Et là, il a été vendu, toujours comme esclave, et acheté par qui?
Par
Potiphar, oui, un officier du Pharaon. Alors on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis tout cela? Vous le savez? Qu'est-ce que Dieu préparait en permettant que Joseph soit tellement éprouvé, qu'est-ce que Dieu allait faire par le moyen de Joseph qui lui se laissait faire? Qu'est-ce que Dieu préparait? Comment? J'ai pas compris. Ben, pas d'abord les Égyptiens, oui, dans un sens, tu as raison, c'était aussi sauver les Égyptiens, parce que c'est grâce à lui que le roi d'Égypte a pu faire les récoltes pour le temps de la famine. Donc ça a sauvé les Égyptiens, elle a raison, hein? C'est juste. Mais c'était avant tout pour sauver qui? Sa famille, ses frères. Donc, si vous acceptez les épreuves que Dieu vous envoie, en vous souvenant de Joseph, vous êtes déjà réconcilié. Le Seigneur ne vous fait pas de mal. Il est en train de vous préparer pour vous utiliser, pour faire du bien, même à ceux qui vous détestent. Et c'est là que je voudrais souligner chez Joseph. Mais Joseph, qui a été vendu chez Potiphar, a été estimé par ce Potiphar, et puis il est devenu le chef de sa maison. Mais quand il était le chef de la maison de Potiphar, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'était un beau jeune homme, hein? Qu'est-ce qu'il arrive à un beau jeune homme? Hein? Il y a des femmes qui lui courent après. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cesser faire? La femme de Potiphar a trouvé que Joseph était très beau. Et puis elle le regardait. Puis elle lui a demandé quoi? Elle qui était mariée, de coucher avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? J'aime beaucoup cette parole. Comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal devant Dieu? Hein? Donc, Joseph craignait Dieu. Et le simple mot que je voudrais vous laisser, qu'est-ce qu'il a fait, Joseph, quand cette femme a voulu, une fois que le moment était favorable, où ils étaient seuls dans la maison, elle a voulu le saisir. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pensé qu'il pouvait résister? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est tenté? Il faut fuir. Il n'y a que ce moyen. Et c'est le mot que je voudrais vous laisser au sujet de Joseph. Il a fui, quitte à laisser son vêtement entre les mains de cette femme qui a voulu l'obtenir. Il a fui. Et dans l'Épître à Timothée, au chapitre 2 de la deuxième Épître, versets 21 à 32, il est dit « Fuis les convoitises de la jeunesse ». Il ne faut pas essayer de jouer avec les convoitises. Fuis les convoitises de la jeunesse. Maintenant, je voudrais vous citer un autre homme sur lequel je voudrais que vous pensiez aussi. C'est Moïse. Après Joseph, je vous parle de Moïse. Vous connaissez sa naissance. Qu'est-ce qui devait lui arriver à Moïse quand il est né? On devait le tuer, hein? C'était l'ordre du roi. Et sa mère, quand elle l'a vu, comment est-ce qu'elle l'a trouvé? Il était beau. Vous voyez, Joseph, il était beau. Moïse, il était beau. Et sa mère a dit, mais il est beau pour Dieu. Et elle l'a gardé pour Dieu. Et vous connaissez toute cette histoire de Moïse, comment il a été sauvé des eaux, comment il est devenu le fils de la fille du Pharaon, comment il a été allaité par sa propre mère, comment il a grandi, et comme il était le fils adoptif de la fille du Pharaon, il aurait pu devenir le chef de l'Égypte. Mais son peuple, c'était quel peuple? Les Égyptiens? C'était le peuple hébreu, hein, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, quand il a été un homme, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 23 du chapitre 11 des Hébreux, il est dit ceci, après avoir été question de Joseph, par la foi, verset 23, chapitre 11 des Hébreux, Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent qu'il était beau et ils ne craignirent pas les dits du roi. Mais c'est par la foi que Moïse, devenu grand, on ne reste pas un enfant, on devient grand. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Alors, si Joseph a su fuir le péché pour l'éviter, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a su refuser. Et c'est ce mot que j'aimerais vous laisser sur le cœur ce soir. En pensant à Moïse, Moïse a su refuser. Il y a des choses qui vous seront offertes dans le monde. Mais est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Moïse refusa. Ça aurait été pour lui, bien évidemment, l'orgueil de la vie, être nommé fils de la fille du Pharaon. Il refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Savoir refuser, voilà des mots qui doivent vous rester. Fuir sa tentation, refuser ce qui vous est proposé et qui vous mettrait en honneur dans le monde. On parlerait peut-être de vous, si ce n'est pas à la gloire du Seigneur, savoir refuser. Maintenant, je voudrais encore vous citer 2 autres noms. Un jeune homme qui a été enlevé de son pays avec 3 compagnons, c'était qui? Daniel, n'est-ce pas? Daniel a été emmené, lui, un jeune homme, il a été emmené à Babylone. Et puis, qu'est-ce qu'on a voulu faire d'eux? On a voulu bien les nourrir, on a voulu leur donner toutes sortes d'avantages, mais dans son cœur, il voulait rester fidèle à son Dieu qui le faisait passer par une terrible épreuve. Et qu'est-ce que nous lisons dans le chapitre 1er de Daniel? Une parole qui doit aussi vous rester. Daniel, qu'est-ce qu'il a fait dans son cœur? Il arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait pas avec les mets délicats du roi. Il arrêta dans son cœur. Bien, le monde va vous offrir peut-être bien des choses. Puissiez-vous vous souvenir de l'exemple de Daniel qui a arrêté dans son cœur. Il a pris une décision dans son cœur. Mais c'était dangereux et le chef qui devait s'occuper de lui et de ses camarades risquait aussi quelque chose, mais Daniel, en ayant arrêté ça dans son cœur, il a prié, et puis Dieu a permis que le chef soit d'accord, et lui et ses compagnons sont devenus de plus en plus grands, intelligents, et le Seigneur leur a donné les plus grandes responsabilités. Et je termine par un autre jeune homme qui était auprès de Moïse et qui s'appelait comment ? Il était l'intendant de Moïse. Josué. Alors, Josué, lui, je voudrais que nous lisions simplement, comme nous l'avons fait hier soir, un texte qui nous montre ce qui lui a donné de pouvoir réussir. Quand Moïse est mort, et que Josué, qui avait été son serviteur depuis le début de l'Égypte, alors qu'il était jeune, eh bien, s'est trouvé à la tête du peuple. Alors nous lisons au chapitre 1er de Josué. Vous avez vos Bibles. Depuis, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Traverse le Jourdain, que voici, toi et tout le peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer au soleil couché. Nul ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie. Est-ce qu'on peut avoir la victoire tous les jours de notre vie? Hein? Oui. C'est le Seigneur qui le dit. Si vous voulez marcher avec le Seigneur, vous pouvez avoir la victoire. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Pourquoi? Je suis avec toi. Comme je l'ai été avec Moïse. Est-ce que Josué savait comment Dieu avait été avec Moïse? Ben oui. Il avait un exemple devant lui. Et il pouvait être sûr de cela. Quand Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que vous croyez que Dieu peut être avec vous comme il a été avec Moïse? En 1998, dans des circonstances qui seront de plus en plus difficiles, on a besoin de savoir ça. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Est-ce qu'on le croit? C'est ça la foi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous voyez, ces gens qui sont sauvés ici, ils sont sauvés pour les autres, pour être en bénédiction aux autres. Et c'est cela que vous devez retenir de ce camp. Seulement, fortifie-toi, verset 7, aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Est-ce que vous croyez qu'on peut réussir encore aujourd'hui? Partout où on va? Avec qui est-ce qu'on peut réussir? Avec Jésus. Croyez-le. Ne pensez pas que vous allez réussir avec le monde, mais vous pouvez réussir avec Jésus. Et il vous est dit comment vous pouvez réussir. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras de temps en temps. C'est ça? Jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est clair, hein? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Et on s'arrête là, et je vous laisse avec ces certitudes que Dieu sait non pas seulement s'occuper des vieillards, mais que la parole nous montre qu'il s'est occupé aussi des jeunes gens qui ont voulu suivre le Seigneur. Qu'il s'agisse de Joseph, qui a passé par toutes sortes d'épreuves, mais qui à 30 ans était quoi? Le premier après le Pharaon pour diriger l'Égypte, et qui est devenu le sauveur de toute sa famille, et en particulier de ses frères qu'il avait haïs. Eh bien, je vous souhaite d'avoir une vie qui soit en bénédiction aux vôtres, comme la vie de Joseph, qui a su fuir la tentation. Une vie comme la vie de Moïse, qui a su refuser d'avoir un grand poste, fils de la fille du Pharaon en Égypte, mais qui a été le sauveur de quel peuple? Le peuple d'Israël, auquel il s'est identifié, parce qu'il a su, à un moment donné de sa vie, refuser. Et quand Dieu voit qu'un homme sait refuser, il le bénit et il le conduit plus loin. Et maintenant, nous avons parlé de Daniel, qui a arrêté dans son cœur que même dans la situation où il se trouvait, il ne se souillerait pas avec les mets délicats du roi, qu'il continuerait de suivre l'enseignement divin, et il est arrivé au sommet en toutes ses provinces. Il en était le chef. Et maintenant, Josué, qui devait succéder à un homme immense, Moïse, eh bien, il apprend que le sauveur de Moïse sera aussi le sien, et qu'il accomplira pour lui, Josué, les mêmes choses qu'il a fait pour Moïse. Voilà ce que la grâce de Dieu apporte, si nous en vivons. La grâce de Dieu qui apporte le salut nous enseigne comment nous avons à vivre dans le présent siècle mauvais. Comment est-ce que vous voulez vivre dans ce présent siècle? En sachant fuir la tentation, en sachant refuser cet orgueil de la vie, ce qu'on voudrait toujours vous mettre en avant, en flattant votre orgueil, et puis la grâce fera de vous des hommes et des femmes qui seront employés par Dieu, comme l'ont été Daniel et Josué, mais par la lecture de la parole. Dieu notre Père, ce soir, nous voulons te demander que dans nos pensées, nous puissions nous souvenir de ce que fut la vie de Joseph, de ce que fut la vie de Moïse, de ce que fut la vie de Daniel et de ce que tu avais été pour Josué, et que nous puissions te dire, nous croyons que tu veux être encore pour nous tout ce que tu as été pour ces hommes. Donne-nous cette foi et donne-nous d'avoir l'attitude que ces hommes ont pu avoir dans un monde qui n'était pas meilleur que celui dans lequel nous vivons, et que tu nous prépares pour les dernières journées, que ce soit tes journées, que tu mettes ta main guérissante sur ceux qui sont peut-être incommodés ou malades,
et que tu nous fortifies et que tu nous donnes de rester unis, de savoir nous pardonner les uns aux autres en Jésus-Christ qui vient bientôt. Amen.